Bienvenue à Connexion vous répond. La question d'aujourd'hui est horriblement difficile. Quelle est la relation entre Dieu et le mal? Dieu ne peut supporter le péché ou le mal. Pour autant, pourrait-on dire que Dieu en est l'initiateur, puisque rien ne se fait sans sa volonté, et que le mal met en exergue sa sainteté et sa perfection, en opposition à l'imperfection de ses créatures, les anges, dont l'ennemi et les âmes. Alors, il y a deux questions ici qu'on voit. La première question est très subtile et l'autre est plus importante. Donc, du coup, je vais les prendre à l'envers. Je vais répondre à la deuxième question d'abord et je vais le synthétiser pour que ce soit un peu plus clair. Dans cette deuxième question, la question qu'on pose, c'est est-ce que le mal est nécessaire pour comprendre la sainteté et la perfection de Dieu? C'est une bonne question. C'est une question bien logique. Alors, la réponse peut être surprenante. Non, on n'a pas besoin du mal pour comprendre la sainteté et la perfection de Dieu. On fait souvent référence à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden, les premiers êtres humains que Dieu a créés, en disant qu'avant l'arrivée du péché, ils étaient parfaits, mais qu'après leur rébellion contre Dieu, après la chute, ils sont devenus imparfaits. En fait, strictement parlant, c'est faux. Ils étaient peut-être moralement sans défaut pendant un court temps après leur création, mais ils n'étaient pas parfaits. Il y a quelques temps, pendant notre série continue sur les attributs de Dieu, on a parlé de la simplicité de Dieu. La doctrine de la simplicité de Dieu dit simplement que chaque attribut de Dieu fonctionne toujours ensemble avec tous les autres attributs. Son omniprésence va de pair avec son éternité va toujours de pair avec sa souveraineté va toujours de pair avec son omnipotence, et ainsi de suite. On peut changer l'ordre dans lequel on cite ses attributs, ça reste toujours vrai. Aucun des attributs de Dieu ne s'exerce de manière séparée des autres. On a parlé aussi des attributs communicables et des attributs incommunicables de Dieu. Les attributs communicables, ce sont les attributs qu'il a partagés avec l'humanité, l'amour, la sagesse, la justice, la colère, et ainsi de suite. Les attributs incommunicables, ce sont les attributs que lui seul possède. L'omniprésence, l'omnipotence, l'éternité, ce genre de choses. Quand on parle de la perfection de Dieu, c'est de cela qu'on parle. Dieu est parfait parce qu'il est Dieu, parce qu'il a tous ces attributs-là qui fonctionnent ensemble. Simplement dit, cela n'était pas vrai d'Adam et Ève. Même avant la chute, Adam et Ève n'étaient pas éternels. Ils n'ont pas toujours existé. Ils n'étaient pas omniprésents, ni omniscients, ni omnipotents, et ainsi de suite. Et juste entre parenthèses, ça en va de même pour les anges. Ce sont des êtres bien différents de nous, avec des capacités différentes, mais ce ne sont pas des êtres parfaits, parce qu'ils ont été créés. Ils ne partagent pas les attributs incommunicables de Dieu. Donc la perfection et la sainteté de Dieu se voyaient non pas par un contraste entre un Dieu sans péché et des êtres pécheurs, mais par un contraste entre Dieu le Créateur et sa création. En ce qui nous concerne, sa sainteté et sa perfection se voient non pas en comparaison avec le péché de l'homme, mais en comparaison avec l'humanité de l'homme. Ce qui rend d'ailleurs l'incarnation de Jésus-Christ d'autant plus incroyable. Le Dieu parfait a endossé une nature humaine limitée par l'imperfection, tout en maintenant tous ses attributs et tout en restant parfait. C'est juste incroyable. La deuxième question est plus difficile quand même. Puisque Dieu est souverain, est-il l'auteur ou l'initiateur du mal? C'est une des questions les plus difficiles dans la foi chrétienne. Alors, voici ce qu'on peut affirmer. D'abord, et tu l'as bien dit dans ta question d'ailleurs, on peut affirmer que Dieu est souverain sur toute chose, même le mal. On le voit un peu partout dans la Bible. Le cas le plus célèbre, c'est le cas de Job. Satan veut détruire la vie de Job, mais il doit demander la permission de Dieu avant de pouvoir le faire. C'est pareil pour le péché. On voit cela à bien des reprises aussi, mais nulle part de manière aussi frappante que dans la mort de Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché plus horrible que le meurtre du Fils de Dieu. Et pourtant, dans sa prédication dans Actes 2, Pierre fait le lien entre les actions pécheresses des hommes et le plan de Dieu que cela se passe ainsi. Actes 2, 23, cet homme, donc Jésus, vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Donc c'était le plan de Dieu. Et pourtant, vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Alors Dieu est souverain sur le mal et il est souverain sur le péché. Mais ce n'est pas lui qui fait que le péché soit là. Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente ». car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir lorsqu'il est encouragé donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Le péché vient donc de nous, non pas de Dieu. Dieu n'est pas l'initiateur ni l'auteur du mal. Et c'est tout ce que la Bible dit à ce sujet, de manière définitive. Ce n'est pas une question à laquelle la Bible essaie de répondre. Mais nous avons quand même quelques indices qui aident, en tout cas. Dans Ésaïe 63, 17, Ésaïe dit « Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas ?» Alors c'est fort, il ne dit pas « Pourquoi permets-tu que nous errions de tes voies ?» Pourquoi permets-tu que nous endurcissions notre cœur? Mais pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Et juste après, dans le même verset, il dit « Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. » Alors, sans le dire explicitement, il suggère au moins que c'est l'absence de Dieu qui a provoqué le péché d'Israël. Puis, 9 versets plus tard, dans Ésaïe 64, verset 6, il dit « Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et que tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. » Donc voilà encore, lorsque Dieu se cache, le péché se manifeste. C'est John Piper, citant lui-même Jonathan Edwards, qui a fait la réflexion qu'il y a une différence entre la manière dont la lumière de 15 heures de l'après-midi est produite par les rayons du soleil et dont l'ombre est produite par l'arbre qui bloque le soleil, même si c'est la même lumière du soleil qui permet et la lumière du jour et l'ombre sous l'arbre. Il est possible, de manière que nous ne pouvons pas expliquer, que Dieu soit capable de gouverner la présence et l'absence du péché, non pas par une action directe de sa part, mais par le fait de se cacher de ceux et celles qui pêchent. Mais comment ça marche exactement, malheureusement, je ne le sais pas. Enfin, je dis malheureusement, mais vraiment je devrais dire heureusement, parce que Dieu ne nous retient jamais quelque chose dont nous avons besoin. Il ne cache pas une réponse vitale à une question vitale de ses enfants. Alors s'il a choisi de ne pas nous révéler cela, c'est que c'est mieux pour nous de ne pas le savoir. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est totalement souverain sur le mal et sur le péché, sans que lui-même soit à l'origine du péché. Merci pour la question, même si la réponse n'est pas définitive à la fin. Continuez de réfléchir, continuez de chercher et continuez de nous envoyer vos questions ici.